Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur les ondes de 48FM. Vous écoutez L'Erreur est urbaine, l'émission mensuelle sur la ville par la SBL Urbagora. Avant toute chose, je tiens à m'excuser du petit couac du mois passé où nous avons dû diffuser notre épisode avec une semaine de retard, comme vous l'aurez sans doute remarqué. Petit problème technique, désolé. C'est une erreur qu'on va essayer de ne plus reproduire. Pour ce sommaire de ce numéro, je vous proposais le mois passé de nous retrouver pour parler d'un sujet qui était technique, qui n'était pas évident, qui était les questions d'intercommunalité, de supracommunalité. Nous avons décidé de changer un petit peu le thème, de rester sur un sujet technique pour le dossier, mais un sujet beaucoup plus, peut-être beaucoup plus accessible quand même, qui est la problématique de l'étalement urbain, les problématiques de la redensification urbaine, c'est-à-dire des concepts qui peuvent paraître un peu gros aujourd'hui, mais qui en fait recouvrent une réalité qui est celle de l'extension à n'en plus finir des villes vers des zones qui sont pour l'instant plutôt rurales ou des zones tampons entre la ville et la campagne. C'est un phénomène à l'œuvre depuis les années 70, on en parlera tout à l'heure dans le dossier avec Jean-Marie Halleux qui est géographe à l'ULG et que j'aurai le plaisir de recevoir tout à l'heure, et aussi avec, petite nouveauté, avec Kitry Lechner qui est architecte et qui a accepté d'animer ce dossier avec moi pour le restant de l'émission. On la rejoindra tout à l'heure et on aura le plaisir de faire ça. Mais l'émission, c'est un dossier, mais ce sont aussi des chroniques. On retrouvera ce mois-ci des chroniques, la chronique de Pavel bien entendu, une nouvelle chronique de Justine Glosner qui va nous parler de genre et d'espace urbain. Une chronique de Lisa De Vischer qui nous revient pour des actualités architecturales. Voilà, je propose de commencer sans plus tarder et je donne la parole directement à Pavel pour la chronique Pavel. Et donc, sans plus tarder, on commence avec Pavel. Aujourd'hui, Pavel, une chronique qui ne manque pas de peps, si tu me permets le jeu de mots.
Ah, merci Baptiste. Ah, les longues balades dans les coteaux, les barbecues dans le parc de la Beauverie, les jeux d'enfants à Sainte-Agathe. Vous l'aurez compris, ce mois-ci, je vous parle d'espace vert. Bon, vous me direz, c'est plus trop de saison. Pourtant, à Liège, le sujet vient de revenir sur la table. En effet, Maggie Yerna, échevin du développement économique et territorial, et Jean-Pierre Hupkens, échevin de l'urbanisme, viennent de dévoiler un grand projet de création et de rénovation d'espaces verts dans la commune. Son nom, la PEPS, comme l'a dit Baptiste. Pour Prospective Espace Public. On repassera niveau clarté du nom. En tout cas, on peut dire que le projet est intéressant et ambitieux. Il identifie 5 quartiers en manque cruel de parcs, squares et autres balades vertes. Il faut bien avouer que les habitants du Londeau, des Vennes, de Chénéba, d'Outremeuse et du centre historique sont particulièrement mal lotis. Et les projets sont nombreux. Une passerelle vers le parc des Oblats, une requalification du boulevard de l'automobile ou la transformation de la place du Congrès, entre autres. Après les espoirs déçus des riverains de la place de l'Isère, il y a de quoi se réjouir. Ne sortez pas vos paniers à pique-nique tout de suite, ceci dit. Il y a les annonces et puis il y a les faits. Et il faut dire que dans les grands projets urbanistiques du moment, on ne laisse pas toujours beaucoup de place à la verdure. On ne reviendra pas sur Bavière, dont l'urbanisation fait l'impasse sur l'opportunité d'un grand parc en bord de dérivation. Pareil au Prémontré, où Thomas et Piron prévoient une tour d'appartements de luxe. On y aurait pourtant bien vu un square sympa qui mettrait en valeur le centre sportif de l'évêché, que le promoteur veut démolir. Des projets que la PEPS ferait bien de réorienter, au risque que l'action paraisse bien incohérente et inconsistante. Mais il n'y a pas que les grands projets urbanistiques qui correspondent bien mal à une vraie politique de végétalisation. Dans nos habitudes liégeoises, il y a aussi des choses un peu malheureuses. L'exemple le plus frappant est d'actualité. Qui n'a en effet pas été se régaler de laquement sur la foire d'octobre? Pas de problème à ça, en principe. Pourtant, chaque année, la même rengaine recommence. L'installation de la foire, et des forains, à travers le parc d'Avroy dévaste littéralement les aménagements du parc, et empêche d'en imaginer une quelconque ramification le long du boulevard. Alors les croustillons, la grande roue, le XXL, c'est fantastique. Mais au moment où on met en place une politique verte dans la commune, peut-on encore se permettre de dévisager annuellement un des grands parcs liégeois? Une question à laquelle la PEPS devra aussi répondre pour le bien de sa cohérence. Un dernier bémol, si d'espace vert il est question, les espaces cultivables ne sont que trop peu mentionnés. Quand le potager collectif de Bressoux s'est récemment vu conseiller de ne pas consommer leurs légumes, suite à la pollution des sols, il serait sans doute temps de se pencher sur ce problème épineux. Après tout, un espace vert, ça peut aussi être ça. Ce ne sont pas les responsables des incroyables comestibles ou du parcours estival du souffle vert qui diront le contraire. La PEPS promet donc beaucoup. Et c'est tant mieux, car le chantier est faramineux. On est impatient de voir les réalisations, en tout cas. On espère qu'elles restent cohérentes. De la verdure qui décore, c'est joli. De la verdure en vie, c'est mieux encore.
Merci, Pavel. Nouvelle chronique donc, Justine Glosner qui va nous parler de genre et d'espace public. Salut Justine.
Salut Baptiste. Pour vous parler du genre et de la ville, je commencerai par utiliser le titre d'Yves Rebaud, géographe, et partirai du postulat que la ville est faite par et pour des hommes. De manière simplifiée, on peut poser comme constat que l'espace intérieur, privé, est associé à l'espace domestique et à la femme, y compris enfants, personnes âgées. L'espace extérieur, public, quant à lui, est associé à la domination patriarcale et masculine. De manière variable et relative, les sociétés semblent associer cette dichotomie spatiale intérieure-extérieure au féminin-masculin. Observer la fabrique de la ville au prisme du genre est une perspective récente. Si l'on s'intéresse à la question du droit à la ville, ou plus particulièrement à l'espace public, à sa représentation et à ses usages, on peut considérer que ce dernier n'est pas un espace de sociabilité et de liberté pour toutes et tous. Plusieurs formes de domination et de discrimination s'y côtoient. On observe donc une pratique de l'espace public conditionnée. Les hommes occupent l'espace public et s'y arrêtent, tandis que les femmes et autres minorités le traversent et s'y posent rarement. La pratique de la ville est différente selon les genres, qui n'y ont pas la même légitimité. Comme dit dans le livre « La ville, quel genre ?», des études révèlent pour la majorité des femmes une sensation d'exclusion, de n'être pas à sa place, de devoir surveiller son comportement, d'être moins acceptée, voire vulnérable en certains lieux, à certains horaires. Ces inégalités font l'objet de nombreux travaux de recherche, portant sur différents domaines, tels que ceux de la mobilité, de l'accès, de la temporalité, de la violence, du sentiment d'insécurité et bien d'autres. Suite au traité européen d'Amsterdam de 1999, les États membres ont l'obligation d'adopter une politique d'approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes, appelée « gender mainstreaming ». Cependant, cette politique est loin d'être appliquée dans tous les pays de l'Union. Ces dernières années, certains pays mettent tout de même en place divers programmes genre pour leurs villes. De nombreuses communes annoncent prendre en compte le genre dans l'évaluation et la production de leurs politiques publiques et aménagement du territoire. Il faut alors questionner l'urbanisme pour comprendre comment la ville est conçue et qui elle privilégie. Aujourd'hui, différents projets pilotes existent et peuvent être identifiés et évalués en Europe et en Belgique. À titre d'exemple, on citera la ville de Vienne, pionnière dans l'intégration des questions de genre dans ses politiques d'urbanisme. Son programme « La ville pour toutes », mis en place début des années 90, repense l'accès à l'espace public. La politique de la ville est pensée en fonction des intérêts de chaque genre. Une planification spécifique et une transparence budgétaire sont mises en place. On pourra d'ailleurs en parler plus amplement une prochaine fois. La politique du genre est une politique complexe qui ne questionne pas que les femmes, mais aussi toute la communauté LGBT, lesbiennes, gays, bi, transgenres. Il faut faire attention à ne pas recréer des stéréotypes et à renforcer les différences. Par exemple, dans certains pays comme le Japon, le Mexique ou l'Inde, des wagons réservés exclusivement aux femmes ont été créés dans les transports en commun suite à de nombreuses agressions sexuelles. Mais que se passera-t-il si une femme veut aller dans un wagon homme pour continuer une conversation avec une connaissance ? Ces initiatives accentuent le risque de stigmatisation qui donne une image de la femme victime, faible, qui a besoin d'être protégée. Chez nous, la ville de Bruxelles a notamment demandé à Garance SBL de réaliser une série de marches exploratoires dans différents quartiers de Bruxelles, dont les conclusions ont été rassemblées dans une brochure « Espace public, genre et sentiment d'insécurité » en 2012. Selon Garance, ces marches, permettent à un petit groupe de femmes qui connaissent un quartier de s'y promener en l'observant avec un autre regard. En se penchant sur leur ressenti, on constate que certains aménagements peuvent être responsables de sensations désagréables qui nous amènent parfois à éviter certains lieux, à modifier nos déplacements dans l'espace public. À titre d'exemple, voici une série d'observations faites par les participantes de ces marches. La ville manque de panneaux d'information à l'attention des piétons. Manque également de toilettes publiques gratuites et entretenues qui empêchent les femmes de prolonger leur séjour dans l'espace public. L'éclairage, les revêtements de sol, la largeur des trottoirs peuvent aussi apparaître comme des obstacles dans le libre accès à la ville pour tous et toutes. La ville de Namur, elle, serait la première ville belge à intégrer la problématique du genre dans les futurs aménagements d'espaces publics. Après une exposition et plusieurs marches exploratoires, toujours en collaboration avec Garance SBL, dans les quartiers qui feront prochainement l'objet de projets de réaménagement, les recommandations des marcheuses ont été synthétisées dans un rapport soumis au collège et au conseil communal. Ces recommandations vont ensuite être traduites dans un guide d'urbanisme et systématiquement intégrées dans les futurs cahiers de charges portant sur l'aménagement d'espaces publics. On peut ainsi voir que les recherches et les initiatives existent et se développent chez nous et ailleurs. La prise en compte du genre questionne donc la ville, ses enjeux, ses occupants et ses concepteurs. Que pourrait être une ville non sexiste, non discriminante ? Je vous laisse y réfléchir.
Merci Justine. Là-dessus, on va faire une petite pause musicale. On écoute les Ogres de Barbac avec Petite Société.
Ma ville, que dérangent les cris d'enfants qui trouvent le temps inutile si on le passe en s'amusant. Ils ont vu sur mon jardin et ils ont l'écho du son des barbecues des copains si l'on sort l'accordéon. Aux fantômes des villes nouvelles et de tes quartiers sans âme, de tes centres commerciaux sans ciel, de tes faux plafonds infâmes. Je m'enfuis pour une vie nouvelle où les marmots ne seront plus le prétexte d'une ribambelle d'idées loufoques et corrompues. Et si tu pries gentiment, tu nous juges et c'est méchant. Toi qui nous avais appris pourtant à ne pas perdre de temps. Aux fantômes des idées gratte-ciel ou doux rêveurs dépassés, tu voyais la grande citadelle, le paradis dans les cités. Je ne jette pas la pierre, je constate le gâchis. De petites maisons pas centenaires recouvertes de crépi. On fait du neuf avec du neuf, ni une ni deux, le neuf est vieux. De ta loi qui marchande et qui bluffe nos âmes d'imbéciles heureux. Fantôme des quartiers résidentiels, que n'as-tu pas profité? Tu vis la vie de moins en moins belle quand tout te pendait au nez. Que trop sévère. Tu es un fantôme au cœur qui bat bien plus vivant que tes frères, eux qui ont tout dévoré, tes premières idées, tes dernières, sans jamais avoir su estimer tout ce qui leur était offert. Aux fantômes des bourgs artificiels, ils ne t'ont jamais dit merci, ils t'ont laissé te brûler les ailes, ils s'en mordront les doigts aussi. Aux fantômes des villes nouvelles, on se recroisera sûrement dans ma vie bientôt devenue belle.
Vous êtes bien sur les ondes de 48 FM, vous écoutez L'Erreur est urbaine, l'émission mensuelle d'Urbagora sur la ville. On continue tout de suite avec la chronique architecture de Lisa De Vischer. Lisa, aujourd'hui tu es venue accompagner de Sébastien Charlier. Vous allez parler d'une expo sur Jean Englebert, les utopies d'Englebert, c'est ça ?
Tout à fait. Donc Sébastien Charliette à côté avec moi. Il est donc le commissaire de cette exposition. Et justement, Sébastien, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus qui est Jean Englebert et quel est son intérêt pour Liège ?
Oui, donc Jean Englebert, c'est un ingénieur architecte qui est né en 1928. C'est une des grandes figures hein, de la modernité architecturale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est un type qui a travaillé avec un bureau privé, donc a réalisé plusieurs habitations unifamiliales qui ont été reconnues par la critique. Et alors, c'est aussi quelqu'un qui s'est distingué par les recherches qu'il a menées au sein de la faculté de sciences appliquées sur la question de l'industrialisation du logement.
Ok, super. Et donc, qu'est-ce qu'il a construit ?
Alors, peut-être la maison la plus importante, bah, c'est sa première, je pense que c'est sa première ou deuxième maison, c'est son habitation personnelle qui se situe près de la rue de la Belle Jardinière, près de la route du Condreau. Bon, c'est une maison dans laquelle on retrouve tous les codes hein, de la modernité internationale d'après-guerre. Donc une maison structure béton, toiture plate, fenêtres bandeaux, etc. Mais avec un souci d'inscription dans son contexte, une soumission d'une certaine manière à la nature. Les maisons qu'il a faites après sont toutes globalement dans la même veine. Donc on est dans les années fin 50 et années 60. Et puis ensuite, il rentre, il combine ça avec sa charge d'assistant et puis de professeur en sciences appliquées. Et en sciences appliquées, il va créer un centre de recherche qui s'appelle le CRO, un centre de recherche en architecture et urbanisme, où là, il va mener ses recherches sur l'industrialisation du logement. C'est aussi une figure qui est très importante au sein de l'ULiège, comme on dit maintenant, puisque Jean Englebert prend la suite de la mission de coordination de Strebel pour l'aménagement du campus du Sartinement. Quoi.
Voilà. D'accord. Et donc là, maintenant, il y a une exposition qui est là jusqu'en 22 décembre, si je ne me trompe pas. Et donc, qu'est-ce qu'on montre exactement dans cette exposition ? Donc, on montre ses réalisations, on montre... Qu'est-ce qu'on montre ?
Oui, il y a peut-être un petit mot à dire. On s'inscrit en fait dans le bicentenaire de l'ULiège. Et donc, on a voulu un peu mettre en avant la notion d'utopie, c'est-à-dire le moment où on réfléchit à quelque chose, on pense que c'est utopique, et on essaie de le mettre en œuvre. Et Jean Englebert, il a ce côté extrêmement pragmatique qui a fait que ces grandes idées de diffusion du logement bon marché ont trouvé des solutions techniques. Donc, dans l'exposition, on a une première partie qui est une partie essentiellement biographique. On est dans le cadre d'Archidoc, donc qui célèbre un peu une biographie sensible de l'architecte. On parle des utopies urbaines, notamment le colloque qu'il avait organisé sur Liège en l'an 2000. Et puis alors, on a une très grosse section sur l'industrialisation du logement. On parle de la maison en béton, la maison européenne, avec une très belle maquette réalisée la date... on est dans les années 50, fin des années 50. Et puis les cabines Cipcro, donc ça ce sont des maisons métalliques qui ont été vraiment réalisées. Il y avait un prototype qui a été installé près de l'usine de Cochery-la-Chertal. Et puis alors les maisons Patz, des maisons en structure bois, qui elles ont été réalisées, je pense, à une vingtaine d'exemplaires et qui sont encore, les structures bois système Patz sont toujours, je pense, utilisées par une entreprise aujourd'hui. Donc c'est un système qui a pas mal fonctionné. Quoi.
Qui a fonctionné et qui fonctionne toujours.
Qui fonctionne toujours. Ouais. Et alors, il reste une dernière chose. On présente aussi, on a demandé aux étudiants de sciences appliquées de réinterpréter les utopies de Jean Englebert, en particulier l'urbanisme permutationnel. Et donc, on présente des maquettes de ces étudiants.
D'accord. Et donc, comme tu le mentionnais déjà tout à l'heure, donc, cette exposition... cadre dans un cycle plus grand, donc le cycle Archidoc. Mm-hmm. Peut-être tu peux nous en parler un peu plus ?
Oui, donc en fait, le projet Archidoc, c'est un projet qui s'inscrit dans les objectifs du GAR, qui est une structure qui dépend de la faculté d'architecture, qui est en fait le centre d'archives d'architecture de la faculté d'archi. Et Archidoc, c'est non seulement un processus de collecte d'archives, puisque ça nous permet d'aller chercher des architectes et de leur demander de déposer leurs archives. Donc, on est dans une démarche de sauvegarde. Mais c'est aussi un projet de, comment dire, de création de mémoire. Ce qui veut dire qu'on fait une expo, on valorise les archives, mais on demande aussi à des artistes de se prononcer sur l'activité d'un architecte. Et ce regard d'artiste, il prend la forme d'un film, à travers le travail de cinéaste, de vidéaste, de Christopher Boots et Manuela Simone.
D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il y a encore sur le programme d'Archidoc
pour les... Alors, il y a un bouquin. Voilà. Il y a un bouquin. Et donc là, à nouveau, c'est l'idée de... Bon, à la base, c'était un peu valoriser les recherches qui avaient été menées précédemment à la fac d'archi. Pour ce numéro aussi, puisqu'on est sur Jean Englebert, puisqu'on est sur une des grandes figures académiques à Liège, on a demandé à des chercheurs et des professeurs de se prononcer et de faire un discours sur les utopies de Jean Englebert. Donc on a des gens de la faculté d'architecture comme Stéphane Dawan, Céline Baudard, on a quelqu'un de l'ULB, Élodie de Gavre, et on a des gens de sciences appliquées avec Luan Nguyen, Iris Rotter, et encore une dernière personne qui est Xavier Van Royen. Voilà, il y a beaucoup de monde.
Il y a beaucoup de monde.
Pour un petit bouquin.
Beaucoup de monde pour un petit bouquin, des gens qui sont aussi liés à la faculté d'architecture.
Oui, tout à fait.
Peut-être tu peux terminer en nous racontant où on peut voir cette exposition et jusqu'à quand.
Alors, l'exposition est accessible au musée Wittert, place du 20 août, jusqu'au 20 décembre. Elle est ouverte. Comment ?
Jusqu'au 22 décembre, je pense.
C'est au 20, non ? C'est 22 ?
On vérifiera ça, on mettra de toute façon les informations sur le site et sur le Facebook de l'émission.
Voilà.
Voilà. Sur Englebert, j'invite nos auditeurs à aller retrouver le podcast de la première émission où on l'entendait justement parler de cette grande conférence Liège en l'an 2000 qui avait lieu en 64, où on l'entend pendant 10 minutes parler un peu de cette utopie-là. Et par ailleurs, je voulais préciser qu'au sein d'Urbagora, on a plein de projets. Ce sera un peu la saison Englebert, je crois, cette année. On a quelques projets, mais tenez-vous au courant parce que c'est vraiment une figure qui gagne à être connue. Et s'il reste un peu de temps en fin d'émission, je passerai un petit extrait de son interview.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
Merci à vous deux. Le dossier du jour est consacré à un enjeu, je l'ai dit, qui est assez technique et qui pourtant parle à tout le monde, qui est vraiment relève du quotidien de la ville de Liège et de la région liégeoise. C'est les enjeux d'étalement urbain et de redensification urbaine. Ce sont des enjeux sur lesquels l'association Urbagora s'est toujours battue dans l'idée de revaloriser la ville, de promouvoir la vie en ville, une ville pour ses habitants avec une grande densité de services, etc. C'est pour nous quelque chose d'assez essentiel de questionner cet étalement urbain, particulièrement aujourd'hui où on voit dans la plupart des grands textes législatifs qui soient faits au niveau régional, au niveau local, au niveau de l'arrondissement, mettent tous en avant le besoin de lutter contre l'étalement urbain et peut-être en filigrane aussi, se pose la question derrière de la redensification urbaine. Aujourd'hui, nous recevons pour parler de cela Jean-Marie Halleux, qui est géographe, qui travaille à l'Université de Liège et qui a fait sa thèse, si je ne m'abuse, sur ces questions-là. Et j'ai la chance et l'honneur et le plaisir d'avoir à mes côtés Kitry Lechner, qui va venir co-animer avec moi ce dossier et qui, jusqu'à nouvel ordre, co-animera ce dossier. Salut Kitry. Est-ce que tu sais, en deux mots, définir ce que ça pourrait vouloir dire l'étalement urbain et la redensification urbaine ?
Donc aujourd'hui, on aborde le thème de l'étalement urbain, donc à savoir une sorte de grignotement de la campagne par la ville. Donc petit à petit, par l'étalement des villes, s'est mis en place un mitage territorial qui a vu un détriment des surfaces agricoles au profit des surfaces bâties et pour lequel il est difficile de retourner en arrière et de retrouver par après de la surface agricole. Donc à ce thème de l'étalement urbain vient s'associer donc la question de la densité urbaine, de comment envisager un retour en ville par un développement de multifonctionnalité et d'une ville plus attractive pour justement essayer de recréer des villes plus denses et d'éviter cette expansion toujours plus grande et donc au détriment des terres agricoles, des espaces naturels en proche proximité des villes. Donc on va essayer d'aborder cette thématique ardue en trois grandes parties. Donc dans un premier temps, d'essayer de redéfinir un peu les motivations de cet étalement urbain, comment on a pu arriver à un tel modèle. dans un deuxième temps, essayer de voir est-ce que ce modèle s'essoufflerait en Belgique, comment en est-on arrivé là aujourd'hui, et enfin d'essayer de se re-questionner donc de comment redensifier l'urbain et de comment essayer peut-être de pouvoir apporter une réponse à ce phénomène.
C'est ça. On commence ce dossier juste après une petite pause musicale. On écoute Flowbots avec Handlebars.
I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. Look at me, hands in the air like it's good to be alive. And I'm a famous rapper even when the paths are all crooked-y. I can show you how to do-si-do, I can show you how to scratch a record. I can take apart the remote control, and I can almost put it back together. I can tie a knot in a cherry stem, I can tell you about Leif Erikson. I know all the words to De Colores, and I'm proud to be an American. Me and my friend saw a platypus, me and my friend made a comic book. And guess how long it took, I can do anything that I want, cause look. I can keep rhythm with no metronome, no metronome, no metronome. And I can see your face on the telephone, on the telephone, on the telephone. Look at me, look at me, just called to say that it's good to be alive. In such a small world, I'm all curled up with a book to read. I can make money, open up a thrift store, I can make a living off a magazine. I can design an engine, 64 miles to a gallon of gasoline. I can make new antibiotics, I can make computers survive aquatic conditions. I know how to run a business, and I can make you want to buy a product. Movers, shakers, and producers, me and my friends understand the future. I see the strings that control the system, I can do anything with no resistance. Cause I can lead a nation with a microphone, with a microphone, with a microphone. And I can split the atom of a molecule, of a molecule, of a molecule. My reach is global, my tower secure, my cause is noble, my power is pure. I can hand out a million vaccinations, or let them all die in exasperation. Have them all healed from the lacerations, have them all killed by assassination. I can make anybody go to prison, just because I don't like them. And I can do anything with no permission, I have it all under my command. Because I can guide a missile by satellite, by satellite, by satellite. And I can hit a target through a telescope, through a telescope, through a telescope. And I can end the planet in a holocaust, 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 in a holocaust. With no handlebars, no handlebars, no handlebars. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars.
Vous êtes sur les ondes de 48FM, vous écoutez toujours L'Erreur est urbaine, l'émission sur la ville. Notre dossier aujourd'hui se consacre à l'étalement urbain, aux enjeux d'étalement urbain et aux réponses qui pourraient y être apportées, notamment par le biais de la redensification urbaine. J'ai le grand plaisir de recevoir M. Jean-Marie Halleux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe à l'Université de Liège.
Tout à fait, oui.
Et vous avez travaillé notamment pour votre thèse de doctorat, si je ne m'abuse, sur les enjeux justement de périurbanisation. Peut-être un petit mot pour vous présenter, pour commencer.
Oui, donc mon nom est Jean-Marie Halleux, je suis professeur à l'Université de Liège dans les domaines de la géographie économique et du développement territorial. Donc le développement territorial, c'est finalement une autre manière d'appeler l'aménagement du territoire. Et j'ai effectivement réalisé une thèse doctorat sur les sur les marchés fonciers en lien avec la nouvelle urbanisation. Et la nouvelle urbanisation en Belgique, par exemple, mais il n'y a pas qu'en Belgique, c'est effectivement plutôt de l'étalement urbain. Donc c'était proche de mes préoccupations.
On va commencer tout de suite. Première partie, ce serait intéressant, je crois, de regarder un peu les motivations de l'étalement urbain, de voir un petit regard peut-être historique, et, parce que la réalité belge n'est pas nécessairement la même que celle de ses voisines. En tout cas, ici en Belgique, on constate que l'étalement urbain est très grand, qu'on arrive dans des surfaces de bâti pratiquement continues qui s'étendent. Qu'est-ce qui a amené à cette réalité-là ? Est-ce qu'on peut dater ce phénomène ?
Oui, dans votre question, j'ai le sentiment qu'il y a deux choses. Il y a d'abord ce qui explique l'étalement urbain de manière générale. Et là, ce que l'on peut dire, même si ici on va discuter principalement de la situation de Liège, de la Wallonie, de la Belgique, c'est qu'aujourd'hui, on a de l'étalement urbain partout sur la planète. Et en fait, pourquoi ? Parce que le premier facteur de l'étalement urbain, c'est ce qu'on appelle le relâchement des contraintes de mobilité. Donc à partir du moment où les populations, où les habitants peuvent circuler relativement vite, par exemple parce qu'on a accès à la voiture, ou même parce qu'on a accès à une petite moto en Afrique ou à un taxi collectif, on peut se déplacer donc relativement vite. Et ce que l'on constate, c'est que les populations vont en profiter pour souvent s'éloigner des centres, vont en profiter pour vivre sur des territoires finalement les plus vastes possibles. Donc dès qu'on améliore les systèmes de transport, on voit les populations, les activités économiques, ce qui fait la ville finalement se redistribuer, se redéployer sur des territoires plus vastes. Donc ça, c'est une première cause fondamentale, le facteur déclenchant, finalement. Et donc, de l'étalement urbain, on en a depuis le 19e siècle, depuis qu'on a implanté des lignes de tramway, des lignes de chemin de fer. Et aujourd'hui, on a de l'étalement urbain dans les pays émergents où le parc automobile se développe. Et on a aussi de l'étalement urbain dans les pays les moins avancés, parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on peut finalement aller relativement vite. Donc de l'étalement urbain, il y en a partout aujourd'hui, partout. Mais on voit aussi évidemment de grandes différences entre les contextes. Alors pour parler par exemple de l'Europe ou des régions qui nous entourent, bon là j'ai l'habitude d'utiliser un indicateur qui est le standard d'habitat. Le standard d'habitat, c'est le nombre de mètres carrés qu'il faut en moyenne urbaniser, artificialiser, certains diront bétoniser, pour loger un habitant. Et alors là, on voit que dans des pays comme les Pays-Bas ou comme le Royaume-Uni, où on a développé depuis très longtemps des politiques d'aménagement, on tourne autour des 200 mètres carrés par habitant. C'est ce qu'on peut appeler une utilisation parcimonieuse du sol. En Belgique, en moyenne, on est autour des 500 mètres carrés, et en Wallonie, on est au-delà, on est autour des 620 mètres carrés. Donc en moyenne, pour loger un habitant, il faut 3 fois plus de surface en Wallonie, par exemple, qu'aux Pays-Bas. Alors pourquoi de telles différences ? L'explication, elle est fondamentalement liée aux politiques publiques. Et alors ce qui est complexe aussi dans cette histoire, c'est que ce sont les politiques publiques d'aujourd'hui, mais ce sont aussi les politiques publiques depuis des dizaines d'années. Et là, ce que les travaux montrent, c'est que si on veut comprendre l'étalement urbain aujourd'hui, il faut remonter, en fait, en gros, au début du XXe siècle. Et au début du XXe siècle, dans certains pays, on a mis en place un système d'aménagement à l'échelle de l'État. C'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas, c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, dans certains pays scandinaves. Donc toutes les communes, dès le début du XXe siècle, progressivement, ont pu s'équiper pour contrôler finalement leur urbanisme, pour contrôler et pour endiguer aussi leur urbanisation. En Belgique, ça s'est fait beaucoup plus tard, ça s'est fait en gros dans les années 60, donc on a ce qu'on appelle la loi organique de l'aménagement du territoire en 1962. Donc on a de ce point de vue-là 6 décennies de retard, et pendant ces 6 décennies, évidemment, l'étalement urbain a prospéré. Donc ça vient de relativement loin, hein. Ça vient au moins du début du XXe siècle. Et puis, on a toujours aujourd'hui des politiques qui sont quand même des politiques qui permettent à cet étalement urbain de continuer, de prospérer. Bon, on a par exemple On a par exemple des zones constructibles, donc ce qu'on appelle les zones d'habitat dans les plans de secteur. Hein. Le plan de secteur, c'est le document d'aménagement le plus important qui va permettre de préciser les affectations du sol, donc ce qu'il est possible d'y développer, s'il est possible de construire par exemple. Donc là, on voit en Wallonie qu'il y a toujours énormément de zones constructibles dans les plans de secteur, donc ça donne de la place finalement à l'étalement urbain. Alors j'expliquais aussi que l'étalement urbain, le facteur déclenchant, c'est la mobilité, mais on a aussi aujourd'hui, puis depuis aussi des dizaines d'années, des politiques de transport, des politiques de mobilité, qui par rapport à l'étranger sont des politiques qui ont été pendant très très longtemps plutôt favorables à l'automobile. Et donc comme je l'expliquais précédemment, à partir du moment où vous allez vite grâce à votre voiture, vous pouvez habiter loin. C'est aussi simple que ça. Donc ça recoupe évidemment des problématiques, par exemple, comme la problématique des voitures de société, etc. Et donc pour limiter l'étalement urbain, il faut notamment axer la politique des transports sur tout ce qui est, ce qu'on appelle entre guillemets alternative, même si on préférerait un autre terme qu'alternative, mais ça veut dire concrètement alternative à l'automobile. Donc il faut implanter un maximum d'emplois, un maximum de logements, sur des lieux qui sont accessibles finalement autrement que par l'automobile. Et c'est ce qu'on fait très peu en Belgique, en Wallonie, et c'est ce qui explique pourquoi on a un degré d'étalement urbain extrêmement important. Donc je reprenais l'exemple de l'indicateur des 600 m² artificialisés en moyenne par rapport à 200 m² par exemple aux Pays-Bas, donc pas très très loin d'ici finalement.
Donc on comprend bien dans ce que vous dites qu'il y a la question notamment de la mobilité et du tout voiture qui favorise cet étalement urbain. Il y a également la question des politiques publiques qui sont mises en place. Mais on a aussi comme l'impression qu'il y a une sorte de mythe dans l'imaginaire collectif du rêve, si on peut dire, de la villa quatre façades comme une sorte de marqueur de réussite sociale. Et il nous est martelé un peu que le Belge a une brique dans le ventre. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est devenu à force une sorte de mantra auto-persuasif? Quand on voit le succès qu'a des salons comme Batibo, par exemple, est-ce qu'à force de nous marteler ce slogan, est-ce que ce n'est pas devenu une réalité de fait?
Oui. Alors bon, la brique dans le ventre, c'est une belle image. Bon, on peut rassurer tout le monde, on n'a pas de brique dans le ventre, au sens strict du terme. Et on a une brique dans le ventre dans le sens où... De nouveau, depuis très longtemps, on a poussé la population belge à aller vers le statut de propriétaire occupant. Donc de nouveau, c'est pas neuf. Là, la première législation, elle date de 1889. Et là, on était dans des décisions éminemment politiques. Ça suit en fait des émeutes ouvrières de 1886. On veut finalement apaiser le climat social et on va offrir progressivement aux ouvriers qualifiés la possibilité de devenir propriétaire de son logement. Et il est clair que quand on est propriétaire de son logement, quand on doit rembourser un crédit hypothécaire, on a finalement moins tendance à être très actif dans ce qu'on peut être des émeutes, voire des révolutions. Donc tout ça arrive de nouveau de très très loin, et donc depuis plus d'un siècle, l'idée qui est mise en avant, c'est que le bon père de famille doit effectivement plutôt être propriétaire de son logement. Alors, bon, je viens de parler du bon père de famille. Il y a effectivement aussi une autre idée, c'est que pour éduquer des enfants, il est préférable de quitter la ville. Voilà. Et donc là, on est aussi vraiment dans une logique de cercle vicieux, puisque les populations des classes moyennes, des classes aisées ont massivement quitté les centres. Donc les centres se sont paupérisés, donc les centres sont devenus moins attractifs. Et donc là, on est vraiment dans l'enjeu de la profession finalement de l'urbaniste, qui doit faire en sorte que les villes soient des villes habitables, et en particulier habitables pour les familles avec enfants. Donc il faut absolument penser au confort des familles en termes de logement, en termes d'équipement public, en termes de voirie, etc., pour faire en sorte que ces familles, dès que les enfants arrivent, ne souhaitent pas aller vers la périphérie.
C'est un peu le géographe qui parle. J'ai envie peut-être de poser une question, reformuler la question de Kitri peut-être, sur les enjeux sociologiques. C'est-à-dire que on viendra effectivement au besoin de redensification urbaine plus tard, mais On sait qu'on parle de mobilité, etc. Il y a effectivement, il y a énormément d'enjeux qui peuvent inciter les gens à revenir en ville. Ça, c'est une nécessité, on y viendra. Mais la question, c'est dans les schémas mentaux, comment on fait pour agir sur les schémas mentaux ? Est-ce que ceux-ci ne sont pas complètement fondamentaux, en fait, dans la représentation qu'on a simplement, d'une vie heureuse ?
Oui, mais voilà, de nouveau, on est avec le résultat de dizaines d'années. Et puis, on a des arbitrages résidentiels qui sont inspirés par ce modèle. Et voilà, j'insiste vraiment sur, finalement, l'idée des cycles de vie. Donc, on voit que ces décisions de quitter, par exemple, un centre ou un milieu urbanisé pour la périphérie, donc ce qu'on peut appeler le périurbain ou l'étalement urbain, se prennent précisément lorsqu'on a un agrandissement du ménage, parce qu'on a développé une insatisfaction vis-à-vis du logement qui, par exemple, devient trop petit. Et donc, c'est vraiment à ce moment charnière qu'il faut, quelque part, convaincre les populations qu'il y a d'autres alternatives. Mais revenir sur plus d'un siècle de culture qui dit que voilà, le bon père de famille doit éduquer ses enfants en périphérie et qu'il doit être propriétaire, ben, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut facilement changer du jour au lendemain. Et alors, de nouveau, les comparaisons internationales sont quand même aussi en la matière intéressantes, parce que bon, on pense qu'il y a une adéquation, qu'il y a une équation entre qualité du logement et propriété. Mais vous regardez, par exemple, la situation du logement en Suisse. Vous avez une minorité de propriétaires, hein, la plus grande partie des Suisses, y compris des familles suisses, donc des familles avec enfants, résident dans des appartements plutôt en location. Mais voilà, c'est un autre contexte et il se fait que c'est accepté et que c'est finalement aussi valorisé ou aussi acceptable quelque part que de résider dans ce modèle de la quatre façades qui manifestement continue à prédominer.
Merci. On va faire une petite pause musicale et on reprendra après ça. On écoute Fais battre ton tambour, Émilie Loiseau et Moriarty.
Je veux tordre le cou à ce mal.
On est de retour sur les ondes de 48 FM et on écoute toujours L'Erreur est urbaine. On continue notre dossier avec Jean-Marie Halleu pour parler d'étalement urbain et de densité urbaine. Les enjeux de la périurbanisation, on a vu, ça vient d'une lame de fond séculaire quasiment maintenant. Ça fait en tout cas plusieurs décennies que les politiques publiques, les mentalités évoluent, etc. Il y a aussi une logique de contrôle social, on l'a vu. Qui justifie l'étalement urbain. Maintenant, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de chiffrer cet étalement urbain, de faire le tour des différents enjeux, de pourquoi on questionne cet étalement urbain aujourd'hui ? Ça va être le sujet de cette deuxième partie de discussion.
Donc ce serait de se demander pourquoi est-ce qu'on essaye de lutter contre. On voit qu'il y a des schémas de développement, tant au niveau régional qu'à un niveau plus intercommunal, qui se mettent en place. Avec le schéma de développement territorial, avec le schéma de développement de l'agglomération de Liège, qui ont tous des discours dans le sens d'essayer de limiter cet étalement urbain. Donc ce serait peut-être d'essayer de faire le tour de la question, si on peut dire, de pourquoi est-ce que, de façon générale, il y a un discours en ce moment de peut-être de lutte contre le système, ou en tout cas d'essayer de l'endiguer.
Oui, j'ai envie de repartir sur le nom de l'émission. L'erreur est urbaine, en l'occurrence l'erreur elle est plutôt périurbaine, parce qu'il y a une série de surcoûts collectifs qui sont liés à ça, c'est évident. J'ai parlé tout à l'heure du facteur déclenchant qui correspond à la mobilité, donc c'est la voiture en fait, hein, dans notre contexte. C'est la voiture qui permet l'étalement urbain, qui permet la périurbanisation. Et puis, il y a des effets de retour, c'est-à-dire qu'une fois que la périurbanisation est en place, une fois que l'habitat est dispersé, une fois que les emplois sont sur des sites qui ne sont pas nécessairement accessibles par le chemin de fer ou même par le bus, eh bien, on a un territoire qui dépend de l'automobile. Voilà. Donc, c'est la problématique de la dépendance à l'automobile. Alors, la dépendance à l'automobile, c'est aussi, évidemment, la dépendance à une source d'énergie bon marché, qui est aujourd'hui le pétrole. Alors, il y aura peut-être des évolutions technologiques. Mais le jour où on a une crise énergétique majeure, où pour pouvoir utiliser son automobile, on devra payer 3, 4, 5, 6, que sais-je, peut-être un peu plus d'euros le litre, mais on aura évidemment un très très gros problème. Le territoire, la société, ne pourra plus fonctionner comme elle fonctionne aujourd'hui. Donc il y a ce problème de dépendance à l'automobile. Qui dit dépendance à l'automobile dit accroissement du parc automobile. Donc là, j'ai réalisé récemment une petite analyse pour suivre l'évolution du nombre de voitures à l'échelle de la Belgique. Je m'attendais quand même à voir une stabilisation dans le nombre, en tout cas un déclin de la croissance, mais non, on est toujours sur un même rythme de croissance. Donc il y a plus de voitures en 2015 qu'en 2010, et plus en 2010 qu'en 2005, et la croissance est sur le même rythme. Et donc tout ça renvoie évidemment au problème de congestion. Donc on a régulièrement les médias qui nous expliquent que Bruxelles, Anvers, voire Liège, hein, on n'est pas obligé d'aller à Bruxelles pour avoir des embouteillages, la congestion, sont parmi les villes les plus encombrées d'Europe. Bah, tout ça résulte évidemment du fait qu'une très grande partie de la population est contrainte, est dépendante de l'automobile, donc utilise son automobile. Donc dépendance à l'automobile, donc dépendance au pétrole, congestion, et si on utilise l'automobile, ça veut dire qu'il y a des consommations énergétiques importantes. Et s'il y a des consommations énergétiques importantes, il y a des émissions de gaz à effet de serre qui, elles aussi, sont importantes. Donc sur le plan environnemental, sur le plan énergétique, on voit que l'étalement urbain, finalement, conduit à un territoire qui n'est pas performant, qui ne répond pas aux grandes ambitions, à savoir l'idée de limiter les consommations énergétiques et limiter les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc ça c'est une première grande problématique. Une deuxième grande problématique, c'est tout ce qui concerne les surcoûts en matière d'infrastructure. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, on est à 600 m² d'urbanisation moyenne en Belgique, ou plutôt en Wallonie, on est à 200 m² aux Pays-Bas. Mais voilà, j'étais samedi avec mes étudiants à Maastricht, on se rend compte de la qualité de l'espace public dans les villes, par exemple néerlandaises, mais on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples, parce que l'urbanisation a une forme plutôt compacte. Donc il est clair qu'avec 600 m², même si ce n'est pas nécessairement trois fois plus coûteux, ce sera beaucoup plus coûteux de maintenir, enfin d'abord d'installer et de maintenir les infrastructures dans une certaine qualité. Voilà, donc il ne faut pas s'étonner finalement des voiries qui représentent des postes excessivement importants pour les budgets communaux. La difficulté tout simplement d'avoir des aménagements de trottoirs, de pistes cyclables, etc. C'est évidemment excessivement coûteux dans un contexte d'urbanisation diffuse. Et sur ces sujets-là, donc il y a quelques années, il y a presque maintenant une quinzaine d'années, on a pu travailler dans le cadre de ce qu'on appelle la CPDT, qui est la Conférence Permanente du Développement Territorial, donc c'est la région Wallonne qui finance des recherches sur ces problématiques de territoire. On a pu, par exemple, montrer que nos factures d'eau, on pourrait les payer 20 à 30% moins cher si l'urbanisation avait été mieux contenue. Pourquoi ? Parce qu'une urbanisation dispersée, ça veut dire qu'il vous faut allonger les canalisations, ça veut dire qu'il vous faut multiplier les petites stations d'épuration, par exemple, qui sont nettement moins efficientes qu'une grande station d'épuration. Il vous faut allonger les niveaux de collecteurs aussi, le réseau des collecteurs, pardon, donc ce qui relie les égouts aux stations d'épuration. Donc voilà, en termes d'investissement, il a fallu multiplier les investissements pour suivre finalement les réseaux. Les réseaux ont dû suivre l'urbanisation. Donc ça, c'est la deuxième grande problématique. Alors il y a aussi évidemment tout ce qui est biodiversité. Il est clair qu'en multipliant l'urbanisation sur des territoires ruraux, ben, on va fragmenter les habitats naturels. Donc si on veut vraiment préserver la biodiversité, ben, il est clair que le contrôle de l'étalement urbain aussi est à prendre en compte. Et puis il y a aussi tout ce qui est social. Donc on l'a dit tout à l'heure, les classes moyennes ont massivement quitté les centres-villes. Et donc aujourd'hui, on a des situations où on nous explique que dans certaines écoles primaires, que ce soit à Liège ou dans d'autres villes, on a une majorité, voire une totalité d'enfants dont le français n'est pas la langue maternelle. Donc ça veut dire qu'on accroît ce qu'on appelle les fragmentations sociales. Et par exemple, l'enseignement va évidemment être fortement pénalisé, puisque les pédagogues nous expliquent depuis très longtemps qu'on a intérêt à mixer les publics. Ici, suite à l'étalement urbain, on a la concentration de problèmes dans quelques quartiers, et on sait très bien que concentrer les problèmes va faire qu'ils vont être de plus en plus difficiles à gérer. C'est par exemple le cas au niveau de l'enseignement. Voilà, donc on voit clairement toute une série de raisons collectives qui font que le territoire périurbain, l'étalement urbain n'est pas un territoire performant par rapport aux grands enjeux. Et donc tout ça est évidemment compris par les décideurs. Et pour revenir sur votre point de départ, ben, c'est évidemment tout ça qui justifie pourquoi, dans les documents d'aménagement, dans, dans les documents publiés à l'échelle wallonne ou à l'échelle même de certaines communes, on met clairement en avant l'idée qu'il faut limiter l'étalement urbain.
Pour revenir sur la question de l'impact environnemental, dont vous parliez notamment du coût de la densification, enfin, ou de la multiplication des réseaux de transport, etc. Est-ce qu'on pourrait aussi aborder la question donc de l'imperméabilisation des sols, qui fait qu'on bétonise, si on peut dire, de plus en plus de surfaces naturelles. Et par là également la question de la diminution des zones agricoles en périphérie urbaine, alors que d'un autre côté, on essaye de remettre en place aujourd'hui des circuits courts et des circuits de, d'agriculture périurbaine. Donc comment essayer de concilier les deux phénomènes, sachant qu'un terrain urbanisé a très peu de chances de retourner en terre agricole, enfin où cela est en tout cas très difficile.
Oui, donc ce que vous dites, en fait, s'ajoute à tout ce que j'ai mis en avant. Donc l'imperméabilisation, il est clair que dans pas mal de contextes, ça conduit à du ruissellement qui accentue les problèmes, notamment d'inondations. C'est assez évident, donc c'est un problème supplémentaire. Et puis il y a évidemment le fait que l'urbanisation se fait au détriment soit de surfaces naturelles, donc ça c'est la biodiversité qui est mise en péril, soit, et c'est le cas la plupart du temps, soit de surfaces agricoles. Donc ça veut dire que la surface agricole se réduit. Il est clair qu'on est plutôt dans une tendance pour limiter l'agriculture intensive, mais en même temps, limiter l'agriculture intensive, en même temps réduire les surfaces et continuer à produire autant pour la population, que ce soit à l'échelle belge ou à l'échelle globale, ben on est clairement quand même avec la crânature du cerf, quoi, hein. Donc, comment produire plus avec moins de terrain ? Donc c'est de nouveau un problème supplémentaire qui justifie des politiques qui visent à limiter cet étalement urbain.
Sans parler de l'enjeu économique et social sur cette question des terres agricoles, mais plus généralement de la pression que ça génère sur le foncier, évidemment. Aujourd'hui, s'installer comme agriculteur, si on n'a pas une belle mise de départ, ne fût-ce que pour avoir accès à la terre, c'est déjà compliqué.
Voilà, donc on réduit les surfaces agricoles et il y a une pression qui s'accentue pour l'agriculture, même si on peut penser qu'il y a d'autres raisons qui expliquent les pressions ou les tensions sur les marchés du foncier agricole, type investissement de structures agro-industrielles, mais il est clair que si l'offre se réduit, ben ça n'aura qu'un impact inflationniste sur les prix.
Oui, ça n'aide pas. Vous disiez à l'instant qu'il y avait une prise en compte du pouvoir politique, effectivement, ça se voit dans les différents schémas, surtout je pense au CODT qui a quand même... était mis, donc c'est le code je sais plus, le code du développement territorial,
voilà, si code
je
m'abuse, du développement territorial.
Qui fixe les règles du jeu pour tout ce qui est aménagement du territoire dans la région wallonne. Ce document qui est essentiel prend en compte très clairement dans ses propos liminaires que la lutte contre l'étalement urbain est une priorité. On a inventé des mécanismes, etc. Peut-être qu'on pouvait dire un mot de ces mécanismes-là. Mais pour autant, récemment, à l'Assemblée régionale, un groupe politique a mis en place un amendement pour étendre la règle dite du comblement qui va accroître la pression sur les terrains non artificialisés aujourd'hui en zone rurale et en zone semi-rurale. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un double discours aujourd'hui entre des politiques qui s'affirment, qui sont extrêmement volontaristes sur le sujet de lutter contre l'étalement urbain, mais qui en même temps, d'un autre côté, les mêmes partis politiques font passer des amendements qui tendent à limiter en fin de compte l'impact?
Oui, alors sur ce plan politique, je pense qu'on peut dire deux choses. La première chose, c'est qu'il y a donc le point de vue aménagiste finalement, hein, que l'on vient de mettre en avant. Donc on voit bien qu'il y a toute une série de raisons, de penser de bonnes raisons qui poussent à limiter l'étalement urbain. Donc c'est le point de vue des aménageurs, c'est le point de vue des sphères environnementalistes. Maintenant, contrairement à parfois à ce qu'on peut penser, en réalité, il n'y a pas un intérêt collectif. Il y a une multiplicité d'intérêts collectifs dans le sens où il y a une multiplicité de politiques publiques. Donc on a la politique de l'aménagement d'un côté, mais on a aussi la politique, par exemple, du logement. Donc là, il faudra offrir des terrains, si possible, bon marché à un maximum de population pour limiter le coût du logement. On a par exemple une politique en matière de développement économique. Donc là, il faudra offrir des terrains aux activités économiques, souvent pour empiéter sur les terres agricoles, comme on l'a dit. Donc cet objectif de limitation de l'étalement urbain va se faire quelque part en arbitrage avec d'autres objectifs politiques. Et voilà, c'est clairement en ce sens qu'on est face à des réalités au sens politique vraiment profond du terme. Donc il faudra se coordonner, il faudra arbitrer en différents intérêts, ça c'est une chose. Et puis il y a un autre aspect, donc le deuxième point que l'on peut mettre en avant, c'est que il y a fondamentalement des points de vue divergents par rapport à l'étalement urbain, non pas tellement en fonction des partis politiques, mais en réalité plutôt en fonction de l'origine ou du territoire d'où est issu le représentant politique. Donc on voit par exemple des représentants des villes qui comprennent qu'il est important de limiter l'étalement urbain, qui ont tout intérêt et qui vont mettre en avant un maximum de mesures, de propositions, qui vont suivre finalement quand on aura des propositions pour enfin parvenir à le limiter, à limiter l'étalement urbain. Et puis on a des représentants politiques, de nouveau, quels que soient finalement les partis, qui arrivent de communes plus rurales ou tout simplement plus périurbaine, et qui, voilà, pour ses représentants, la gestion de l'étalement urbain est une problématique moins importante. Et ça, ce qui est intéressant aussi sur un plan historique, hein, donc j'ai expliqué tout à l'heure le fait qu'on a de l'aménagement du territoire en Belgique depuis les années 60, alors qu'aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, c'est depuis au moins le début du XXe siècle. On voit que les débats, par exemple, aujourd'hui au niveau du Parlement wallon entre thèses plutôt urbaines et thèses plutôt rurales, on les retrouvait déjà à cette époque, au début du XXe siècle, suite finalement à la mise en place de la ville industrielle, et que dans certains pays, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, ce sont plutôt les représentants des villes, des grandes villes, qui l'ont emporté. Donc par exemple, les représentants d'Amsterdam, de La Haye, de Rotterdam, d'Utrecht l'ont emporté par rapport aux représentants des petites communes néerlandaises. Et c'est ça qui a conduit, dès le début du XXe siècle, à mettre en place un système d'aménagement. Même chose au Royaume-Uni, même chose de nouveau en Allemagne. Par contre, vous allez aux États-Unis, vous allez en France et vous allez en Belgique, vous regardez les décisions, comment se sont prises finalement les décisions au début du XXe siècle, et bien là, comme finalement un peu aujourd'hui au niveau du Parlement wallon, eh bien ce sont plutôt les représentants des territoires ruraux qui l'ont emporté et qui n'ont donc pas mis l'accent sur le développement de l'aménagement et sur donc cet objectif de limiter l'étalement urbain. Donc voilà, il y a ces deux grands clivages entre politique sectorielle et politique de l'aménagement, et puis clivage entre point de vue plutôt urbain d'un côté et point de vue plutôt rural ou périurbain de l'autre.
Pour la petite histoire, on peut constater qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des ministres de la région wallonne, il n'y en a pas un seul issu du tissu urbain. Ils sont tous des représentants de zones rurales ou périurbaines, en tout cas. Se pose aussi la question, il me semble, qui est intéressante, qui est la question de la fiscalité, en fin de compte, parce que a priori, les gens qui vont s'installer dans une logique périurbaine, donc la ville à quatre façades en périphérie, on va dire dans un rayon de 20 ou 30 kilomètres de la ville, sont des gens qui ont les moyens d'acheter, qui ont les moyens de faire construire souvent aussi, donc qui ont un revenu et une fiscalité qui est plus intéressante. Et ce revenu-là sera touché par la commune en question, et donc c'est un pouvoir d'achat, etc., qui sera perdu pour le centre urbain, mais qui sera gagné pour la commune périphérique. Du coup, quand on est dans une logique, je pense au schéma d'arrondissement de Liège, comment on peut réussir à faire coordonner les intérêts fiscaux d'une commune comme Sprimont, par exemple, qui a tout à gagner, en fait, au niveau financier d'une arrivée massive, entre guillemets, mais en tout cas d'une arrivée continue de nouveaux contribuables. Alors que les coûts, dans le modèle périurbain, les gens viennent travailler en ville, viennent consommer en ville, etc. Mais le coût qui doit être pris en charge par la ville est énorme, en fait, parce que c'est le coût du parking, le coût du stationnement, le coût des voiries, etc., qui sont pris en charge par les centres urbains, alors que les revenus, les retours sont pris en périphérie. Comment on fait pour concilier ces deux intérêts ?
Sans compter que pour rebondir sur cette question, il y a aussi le phénomène que cette fiscalité peut-être pousse certaines villes du périurbain à continuer de développer ce système, puisque pour elles, c'est un système qui est attractif, puisque ça attire vers elles des gens fiscalement plus imposables et donc qui vont peut-être apporter davantage de revenus à la commune.
Oui, oui, tout à fait. Au niveau de la, fiscalité, je pense qu'il y a peut-être deux choses à dire. La première chose, c'est qu'on a un système qui est basé donc, sur le revenu cadastral. Parfois, on confond le revenu cadastral et le prix compte immobilier. Le revenu cadastral, c'est la base imposable, donc qui est une estimation de la valeur de l'immeuble, de la valeur du logement, par exemple. Et puis, vous avez le prix compte immobilier qui représente donc une proportion de ce revenu cadastral que vous allez devoir payer comme taxe. Et on voit que c'est une partie très, très importante du revenu, du budget des communes. Alors sur ce revenu cadastral, et là on a eu aussi des travaux récemment dans le cadre de la CPDT qui l'ont bien montré, il est en fait complètement inéquitable. Inéquitable dans le sens où il est basé sur des valeurs qui sont des valeurs de 1975. Donc on comprend évidemment que depuis 1975, la géographie des valeurs foncières, des valeurs immobilières a fortement bougé. Donc par exemple, le logement, les valeurs en termes de logement ont par exemple fortement progressé dans les communes périurbaines, alors qu'au niveau de la ville, par exemple au niveau de Liège, on a eu des évolutions nettement moins fortes. Donc ça veut dire que lorsque vous avez un logement sur la commune de Liège, vous allez avoir un revenu cadastral beaucoup plus élevé qu'un logement qui a, par exemple, une valeur identique, mais dans une commune plus périphérique. Voilà. Donc ça, alors que l'on voudrait finalement renforcer, aider les populations à aller vers la ville, on les taxe quelque part davantage si elles sont dans des localisations plus centrales. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que on a des communes dont le financement, dont le budget repose en fait de plus en plus sur la fiscalité. Donc il y a deux grands moyens en fait pour financer les communes. Un premier moyen, c'est une logique de fonds, de transfert en fait depuis l'autorité centrale. En l'occurrence pour nous, ce serait plutôt le niveau de la région, de la Wallonie. Et puis vous avez ensuite une fiscalité qui est basée sur donc ce qui est présent sur le territoire. Et les principales ressources, c'est le précompte immobilier, donc ce qui est lié aux constructions présentes sur le territoire. Et la deuxième ressource principale, c'est l'impôt sur le revenu des personnes. Et donc, comme ça vient d'être dit, une commune, quand elle réfléchit par rapport à sa logique financière, elle a effectivement tout intérêt à accepter une urbanisation, on va dire classique, le lotissement, etc., puisque ça va lui apporter des populations qui sont soit classe moyenne, soit classe aisée, donc avec de hauts revenus. Et deuxièmement, on va y construire des immeubles qui seront des immeubles plutôt avec un coût donc important et qui vont aussi rapporter énormément au niveau du budget communal. Donc on voit, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a une contradiction entre la politique de l'aménagement et les politiques sectorielles. En plus, la fiscalité montre très bien qu'il y a une contradiction entre les politiques à l'échelon, par exemple, de la région, et puis les politiques à l'échelon communal. Et là-dessus, bon, je trouve que la pierre n'est pas nécessairement à jeter aux communes. Les communes font avec le système qui est mis en place. Je trouve que la pierre est plutôt à jeter au niveau régional, qui devrait, si vraiment on pense que la limitation de l'étalement urbain est importante, on devrait adopter un autre système avec davantage de redistribution, davantage de transferts depuis le niveau central, plutôt qu'une fiscalité qui dépend uniquement des caractéristiques locales. Alors peut-être encore un élément sur la fiscalité. Donc là, on a pu mener des travaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les choix qui vont alimenter l'étalement urbain. La fiscalité n'apparaissait pas vraiment comme un facteur important. C'est-à-dire qu'on quitte la ville pour aller vers la périphérie, c'est pour beaucoup d'autres raisons par rapport à une fiscalité moindre. Comme on l'a dit, c'est le modèle prédominant. On quitte lorsque on a une logique de cycle de vie, donc le ménage s'agrandit. Donc il y a très peu, en fait, il y a très peu de personnes qui intègrent cela de manière rationnelle. Par contre, on voit qu'on a une valorisation aussi de la périphérie, parce qu'on affiche un peu fièrement, finalement, qu'on va y payer moins de taxes. Donc, à la limite, ce n'est même pas économique, c'est plus aussi une image, une représentation. On va en périphérie et on est valorisé quelque part parce que c'est un contexte où on paye moins de taxes, qui est de nouveau complètement aberrant par rapport aux problématiques collectives, aux problématiques des surcoûts collectifs dont on a parlé tout à l'heure.
C'est vraiment un sujet passionnant. On va faire une petite pause musicale pour digérer un peu toutes ces informations et puis on revient juste après. On écoute Balafonix avec Coupé décalqué.
Je parle trop.
De retour sur les ondes de 48FM, l'erreur est urbaine. On est toujours en compagnie de Jean-Marie Halleux et on continue de parler d'étalement urbain, de développement périurbain, mais aussi de réponses qu'on va apporter après avoir regardé, après avoir un peu identifié les différentes thématiques, les différentes problématiques et l'historique un peu de phénomène. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de dire, voilà, on veut lutter contre l'étalement urbain pour tout un tas de raisons. Comment on fait, Kitri?
Donc la question de se poser d'abord, c'est est-ce qu'on n'arrive pas dans une sorte de péremption du phénomène du périurbain et de l'étalement urbain? Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas rendre la ville en quelque sorte attractive pour permettre un retour en ville, ou en tout cas une redensification des villes-centres?
Oui. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, j'ai envie de peut-être dire deux choses. Première chose, c'est que les indicateurs ne vont pas nécessairement vers la vérification de la limitation de l'étalement urbain. Donc en tout cas, si on prend la Wallonie, donc par exemple, là, récemment, on a pu objectiver la distance moyenne entre un nouveau logement et un arrêt ferroviaire. Eh bien, on voit qu'en moyenne, les logements sont de plus en plus éloignés des gares. Et là, je vous parle de chiffres tout à fait récents. Donc, il y a quand même cette contradiction entre voilà, les discours dont on a parlé tout à l'heure et puis la réalité avec une population qui, en moyenne, habite finalement de plus en plus loin des centres et en particulier de plus en plus loin des gares. Alors, un deuxième élément... c'est l'idée qu'il ne faut peut-être pas opposer centre urbain et espace complètement périurbain. C'est-à-dire qu'il y a une alternative entre les deux. Donc l'idée n'est pas de remettre toutes les populations en plein centre-ville, mais l'idée est de trouver des alternatives qui permettent de limiter les problèmes collectifs tout en répondant aux attentes, notamment aux attentes des familles avec enfants dont on parlait tout à l'heure. Alors bon, là, il y a quelques lignes de base hein, qui sont toutes simples, mais qui ne sont pas nécessairement si simples à appliquer en pratique. Première idée, c'est que quand on produit, par exemple, du nouveau logement, il faut assurer une densité minimale. La densité minimale, en gros, les urbanistes nous parlent de 30 habitants par hectare. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des quartiers où on a au moins 30 habitants par hectare, si vous installez un arrêt de bus, vous avez de la probabilité d'avoir une clientèle suffisante dans vos bus. Hein, donc là, on peut comprendre assez facilement, si vous dispersez votre population autour de chaque arrêt de bus, et en moyenne, on accepte en gros de marcher 400 mètres pour par exemple prendre un bus. Si donc dans un rayon de 400 mètres, ça représente à peu près un demi-kilomètre carré autour de chaque arrêt de bus, vous n'avez pas suffisamment de population, vos bus vont rouler à vide. Et si vos bus roulent à vide, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez creuser le déficit d'exploitation des systèmes de transport en commun. Donc il faut une densité minimale, mais ce n'est pas pour ça que cette densité elle doit être liée vraiment en une localisation centrale. Ça, c'est une première grande idée. Une deuxième idée, c'est l'idée de canaliser quelque part l'urbanisation. Donc de nouveau, tout le monde n'est pas obligé d'être en plein centre urbain, mais l'idée est de valoriser les terrains qui sont accessibles par de nouveau d'autres modes de transport que la voiture. Et donc, pour prendre la région liégeoise, il y a beaucoup de pôles secondaires qui, par exemple, sont desservis par le chemin de fer. On peut penser à Ans, par exemple, où on pourrait très bien produire du logement. Donc, c'est une logique qui est un peu une logique en doigt de gant, pour prendre une image qui est celle d'un plan qui est bien connu et qui est appliqué depuis près de 60 ans, 70 ans à Copenhague. C'est de canaliser les nouvelles urbanisations le long des axes bien desservis par le transport. Et puis alors, j'ai envie de rajouter aussi la troisième dimension, qui est la dimension qualitative. Donc, vous avez une densité relativement forte, tout à fait acceptable, hein, 30 habitants par hectare. Vous installez vos logements le long des axes de transport. Et en plus, vous renforcez la qualité de vie avec par exemple une logique de maillage vert. Hein. Bon, l'émission ici est organisée par Urbagora. Urbagora vient de sortir un volume très intéressant de dérivation sur le maillage vert. Donc il faut des politiques de structure verte qui permettent de renforcer la qualité de vie dans les espaces urbains, mais de nouveau, pas nécessairement les hyper-centres-villes, mais des lieux qui sont tout simplement accessibles autrement que par l'automobile. Donc voilà les quelques grandes idées clés que les urbanistes cherchent à mettre en pratique.
Est-ce que dans cette dynamique, on pourrait envisager de plutôt recréer des centres-villes mixtes, mais à des échelles plus petites, dans les proches banlieues, pour essayer de remettre en place finalement un système multipolaire, pour que ces centres-villes soient socialement dynamiques, mais qu'on ne doive pas forcément tous retourner vers l'hypercentre et la grande ville, qui est peut-être un modèle qui est moins attractif pour les gens, et donc de recréer un système de sous-pôles qui se retrouve en périphérie de ces grandes villes.
Oui, donc vraiment, l'idée de base, c'est considérer que le transport collectif est la colonne vertébrale, finalement. Donc, vous faites le point sur les réseaux de transport collectif. Idéalement, ça peut être le train, mais ça peut aussi être, on peut espérer, le tramway, par exemple, au niveau de Liège, ou même le bus. Et donc, ces lieux qui sont bien desservis, qui correspondent effectivement souvent à des petites polarités qu'on peut appeler entre guillemets secondaires, sont des lieux qu'il faut absolument valoriser. Et c'est là-bas, je pense, que devrait aller l'investissement public pour améliorer la qualité de vie. Et c'est là-bas aussi qu'il faudrait finalement développer une politique politique foncière, je crois que c'est aussi un préalable. Hein. Donc faire en sorte que les promoteurs, finalement, puissent trouver des terrains là où il est opportun de construire, plutôt que de manière de nouveau dispersée, comme ça se passe aujourd'hui.
Sur la maîtrise du foncier, moi, j'ai une question qui me taraude de longue date. C'est la question du droit de préemption en France. Que je connais bien, il y a un enjeu assez majeur. Les communes ont tout droit de préemption sur un terrain. Un terrain mis en vente, la commune peut le racheter au prix du marché, mettant fin ainsi à tout enchérissement possible. C'est ce mécanisme qui a permis à différents organismes de développer des projets assez ambitieux en France. Je pense au Conservatoire du Littoral qui rachète petit à petit, au fur et à mesure du temps, tous les espaces littoraux du territoire français. Mais c'est aussi un outil extraordinaire pour les communes, puisque celles-ci peuvent avoir une maîtrise de leur aménagement en ayant... plus que leur mot à dire sur des dossiers, sur des dossiers qui sont proposés et des avalisations de permis d'urbanisme ou non, elles auraient la possibilité réellement de promouvoir leur propre politique en ayant une maîtrise du foncier de A à Z.
Oui, là ce que j'ai envie de dire, c'est que la préemption est un outil, et que l'outil doit être au service d'un projet. Donc si on fait de l'aménagement du territoire, l'idée est quand même de différencier deux grandes phases. Une première phase, c'est la logique du projet. Donc là, on vient un peu d'en parler. Vous faites le point, par exemple, au niveau de Liège, sur les périmètres, qui sont des périmètres accessibles par d'autres modes de transport, de nouveau, que l'automobile. Donc voilà. On fait l'inventaire, on diagnostique quels sont ces terrains, et le projet est donc de valoriser au mieux ces terrains. Et pour valoriser ces terrains, ensuite, c'est la deuxième phase, vous avez un aspect plus opérationnel. Donc là, il faut mobiliser les terrains, et on dispose, de ce point de vue-là, de multiples outils. Donc on peut effectivement parler de préemption ou droit de préférence. Ça peut aller plus loin, hein. ça peut aller jusqu'à la limite de l'expropriation, pourquoi pas. Donc voilà, l'outil... C'est vraiment le point sur lequel j'ai envie d'insister. L'outil doit être au service d'un projet. Les aménageurs, les urbanistes ont une boîte à outils qui est relativement bien fournie, et il faut que ces outils soient utilisés de nouveau au service d'un projet qui serait un projet, puisqu'on parle ici d'étalement urbain, qui serait donc alternatif à l'étalement, qui serait donc cette ville compacte mais aussi qualitative.
Dans cette question de l'alternative à l'étalement, est-ce qu'on pourrait aussi réfléchir au devenir des friches industrielles, puisque ce sont quand même des terrains vastes qui sont en bordure de ville, qui sont aujourd'hui abandonnés ou en cours de déshérence, d'envisager une reconversion, qu'elle soit pour de l'habitat ou qu'elle soit pour également mettre en place des espaces verts. Ça s'est notamment fait dans la vallée du Rhin en Allemagne. Donc quelle est cette question, puisque notamment à Liège, il y a quand même la question du patrimoine industriel et des friches industrielles en périphérie urbaine. Donc est-ce que ça pourrait être une solution, enfin, ou en tout cas une alternative à l'étalement urbain?
Oui, mais voilà, j'ai envie de nouveau de revenir sur ma grille de départ. Donc on développe un projet, on fait le point sur les superficies qui doivent être mises en développement, et il est clair que sur ces terrains, par exemple au niveau de Liège, on va trouver effectivement des sites qui ont hébergé des activités industrielles, donc des sites, des friches industrielles, comme on dit communément. Et alors là, se pose évidemment un problème qui est souvent le problème du surcoût, notamment en termes de dépollution. Et donc, il y a le projet, et puis il y a aussi, par rapport à ça, les moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir mobiliser les terrains. Et le problème, c'est que le marché ne suffit pas, dans le sens où on pourrait avoir des terrains qui, quelque part, ont une valeur négative. Valeur négative parce que la valeur du développement immobilier qu'on peut y développer est inférieure au coût de, par exemple, d'aménagement et de dépollution. Donc il faut certainement aller dans cette direction-là, si on a des terrains qui sont bien localisés, et c'est le cas, et ces terrains bien localisés, il faut quelque part accepter d'y mettre les moyens pour les valoriser le mieux possible.
Dans cette logique-là, peut-être un petit mot sur ce qu'on appelle les écoquartiers, qui donnent l'impression avec le temps d'être devenus la panacée de l'urbanisme. En tout cas, on ne compte plus les projets dans le monde qui étaient avant des lotissements et qui sont maintenant des écoquartiers, avec une qualité qui peut être très fluctuante d'un projet à l'autre. Est-ce que c'est ça la solution, la revalorisation de sites industriels en proximité immédiate de l'urbain? Je pense à la Friche Boliden, par exemple, ici à Liège, en écoquartier, c'est ça la réponse?
Et l'écoquartier, c'est une formule. Donc il faut voir effectivement ce qui se cache derrière. Alors, à propos de l'écoquartier, on peut d'abord relever la différence ou la nuance entre écoquartier et quartier durable. Ce qui est souvent mis en place, c'est des écoquartiers dans le sens où ce sont des quartiers où on va mettre en avant les performances énergétiques des bâtiments, donc les performances techniques finalement. Et souvent, ce sont des lieux qui sont accessibles à une classe moyenne ou à une classe supérieure plutôt qu'à l'ensemble de la population. Donc c'est dans ce sens-là qu'on parle d'écoquartier plutôt que de quartier durable, parce que pour avoir réellement des quartiers durables, là, il faut en plus ajouter la dimension sociale. Et alors, bon, on a pu travailler un peu sur le sujet des écoquartiers il y a maintenant quelques années. Et alors, ce qui est frappant, c'est que on a un modèle qui émerge en Wallonie, qui est souvent un modèle quelque part hérité du périurbain. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant de nouveau les performances énergétiques de l'immeuble. Donc on va avoir de l'immeuble passif, par exemple, mais on ne va pas revenir sur ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la nécessité de limiter la superficie des parcelles et sur la nécessité aussi de situer, de localiser les terrains, de localiser les parcelles sur des lieux accessibles. Donc une chose est la performance technique, et puis autre chose est l'aspect social, et puis un autre et troisième aspect, c'est tous les problèmes de localisation, de consommation d'espace qui ne sont pas nécessairement toujours rencontrés par certains quartiers qui parfois se prétendent être des écoquartiers.
Par rapport à cette question des écoquartiers, on peut voir que c'est aussi devenu aujourd'hui peut-être un argument marketing dans le développement de certains quartiers. Il y a cette question qui revient, qui est récurrente du côté marketing de la ville. Pour retrouver un attrait à la ville, de nombreuses campagnes publicitaires sur de nombreuses villes sont mises en place. Est-ce qu'on ne peut pas craindre sur le long terme de tomber dans un système de gentrification des centres-villes ? La ville-centre risque de réattirer des populations aisées, d'en faire partir les populations les plus paupérisées qui risquent, elles, de se retrouver dans le périurbain, voire dans le lointain périurbain, dans des zones qui seraient plus accessibles financièrement. Et donc finalement, on tomberait dans un phénomène inverse qui ne serait pas forcément une solution au système en place actuellement.
Avec le risque couplé qu'une population qui serait en relégation en périurbain et paupérisée devrait en plus prendre en charge individuellement des coûts de déplacement qui ruineraient les budgets et donc l'impact social. Effectivement, on parle évidemment pas dans les 5 ans à venir pour la ville de Liège, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de rendre attractifs les villes effectivement et de créer la relégation inverse en fin de compte?
Oui. Sur la gentrification, à mon avis, la première chose à dire, c'est que sur Liège, les effets sont quand même extrêmement limités. Hein. Donc le phénomène est quand même extrêmement limité. Donc on voit certains signes, par exemple, dans le cœur historique, dans certains quartiers avec une image assez positive. Mais les indicateurs, notamment de revenus, ne montrent pas qu'il y a une pression extrêmement importante qui pousse les populations plutôt défavorisées à quitter ces quartiers, quoi. Ce qui n'est par exemple pas le cas à Bruxelles, où il y a une pression beaucoup plus forte et où certains habitants doivent quitter la ville pour non pas aller en périphérie, mais par exemple aller dans certaines agglomérations wallonnes où on va trouver du logement à meilleur marché. Donc voilà, on peut pas dire que la gentrification soit pour le moment dans les villes wallonnes, à Liège par exemple, une réelle menace. Par contre, il y a une espèce aussi de gentrification périurbaine, c'est-à-dire que certaines communes favorisaient des premières couronnes périurbaines, y compris finalement les enfants des périurbains qui se sont installés là dans les années 70 n'y trouvent plus aujourd'hui du logement à un prix acceptable. Et donc ces populations-là, plutôt que d'aller vers la ville, en général, ce que l'on constate, c'est plutôt un phénomène d'étalement, donc vont s'éloigner dans une deuxième ou dans une troisième couronne périphérique. Donc les pressions, finalement, sur les marchés du logement, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un espace qui est un espace favorisé qui correspond aux premières couronnes périurbaines, à 5-10 km de la ville. C'est par exemple Hambourg, c'est par exemple Neupré, c'est par exemple Beaufailly, pour parler du contexte de Liège. Ce sont ces zones qui deviennent finalement peu accessibles et ce sont ces zones qui sont quittées par des populations qui vont s'établir en général pas vers la ville, mais qui vont en général plus loin. Donc il y a une sorte de gentrification périurbaine finalement. C'est plutôt ça qui caractérise notre contexte.
À l'heure actuelle, oui, maintenant, si on arrive à... si Liège arrive à revaloriser son image et les centres-villes, et il y a quand même des éléments dans l'air qui me tendent à montrer que c'est une possibilité. Je pense aux pays voisins où c'est ce qui se passe. Je pense à la France notamment, qui a quand même un large passif aussi en matière de périurbanisation, où la plupart des métropoles, on va dire les villes étudiantes en France, ont toutes augmenté très 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 largement leur potentiel d'attractivité dans les 10 ou 15 dernières années, et où là il y a une relégation. Alors on n'est pas aujourd'hui dans ce contexte à Liège, clairement, c'est assez évident. Mais par contre, à ce cas, la question en fait que j'ai envie de poser, c'est le bâti en périurbain actuel. S'il y a revalorisation du centre-ville, ce bâti ne sera pas abandonné. Absolument, enfin, c'est assez peu probable. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même, malgré tout, d'échange de population et donc de paupérisation des espaces extérieurs avec la périphérisation et donc du coup la marginalisation de ces espaces-là à long terme? C'est aussi un enjeu à prendre en compte quand on pense sur du long terme, je pense à des horizons 2050 ou 2060.
Sur la question du long terme, il y a aussi cette question de mobilité. Sur la question du long terme, il y a la question de la mobilité, de se dire que le périurbain implique une dépendance à la voiture. Or, peut-être que sur une période plus ou moins longue, on voit que les voitures sont de plus en plus chassées des villes, par exemple. Les grandes villes essayent de bannir les voitures de leur centre-ville, donc est-ce qu'ils risquent pas d'avoir un retour vers la ville des gens qui veulent être un peu moins dépendants du système de voiture, et donc se retrouver en périurbain des gens qui seraient de plus en plus dépendants à la voiture, qui risquent d'être sur le long terme de moins en moins bien perçus?
Oui, alors là ça devient vraiment difficile parce que vous me posez des questions sur le futur, et comme je n'ai pas de boule de cristal, C'est effectivement un peu difficile. Donc, que peut-il se passer à la fois dans le centre urbain ou dans les espaces périurbains? Bon, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on est avec un territoire qui dépend de plus en plus de l'automobile. Un élément aussi quand même assez important, c'est que pour Liège, comme pour la Wallonie globalement, on est avec plutôt, jusqu'à l'horizon 2040-2050, une croissance de la population. Et donc, il est hautement probable qu'on puisse avoir, comme on l'évoquait tout à l'heure, des problèmes parce que les tensions, par exemple, sur les marchés énergétiques vont se renforcer. Et donc, pour moi, là, tout l'enjeu par rapport aux décennies qui arrivent, c'est que, par exemple, pour la Wallonie, on va passer donc de 3,5 millions à peu près à 4 millions d'habitants. Ces 500 000 habitants, où va-t-on les mettre? Et si on les continue à les mettre dans le périurbain, voire dans du périurbain très très éloigné, on va renforcer notre dépendance et la crise énergétique sera en fait d'autant plus insoutenable. Donc voilà, les choses de ce point de vue-là sont relativement claires. On a vraiment tout intérêt à regrouper les populations, de nouveau pas nécessairement en plein centre urbain, mais dans des lieux qui permettraient de résister finalement si une menace comme celle de tensions importantes sur les marchés énergétiques et donc d'impossibilité de fonctionner avec l'automobile pouvait se concrétiser. Quoi.
J'ai une dernière question, mais je propose de la poser et faire une petite pause musicale pour vous donner le temps un peu de préparer votre réponse. C'est la question politique institutionnelle. Alors bon, c'est toujours des questions complexes en Belgique. La sixième réforme de l'État permet aux régions de supprimer les provinces, en tout cas de les réduire à leur portion congrue et de créer des logiques supracommunales, ce qui s'avère une nécessité pour penser l'étalement urbain de manière intelligente, d'apporter une réponse groupée, c'est-à-dire créer un territoire institutionnel qui regrouperait les villes et leurs espaces périurbains. Cette question-là, elle me semble essentielle, d'autant plus que si on pense à revitaliser les centres-villes, à Liège, évidemment, on pense à la ville de Liège, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a la ville, enfin, il y a les grandes conurbations liégeoises que sont Serein et Herstal, mais on peut penser aussi à Huy, on peut aussi penser à Verviers, à un ensemble de petites villes à l'échelon de la province. Et la question que j'ai envie de poser aux géographes, c'est comment on met en place cette supracommunalité, de 1 et de 2, à quel territoire? Mais avant d'y répondre, je propose qu'on écoute Citoyen 120 de Zap Mama.
Du monde entier. Stop. Hey, hey, hey. passe trop souvent devant. Derrière réalité vécue dans nos sociétés. Et ça ne nous empêche pas de nous empitrer. Respect, dignité, faut pas oublier.
And you will wake up from this nightmare.
Hey, and then you see the reality of the city. And then you say, hey, hey, hey.
From this nightmare,
you can't wake up now. You gonna see another day. You gonna see another day. You gonna see another day.
Stop. What say the news on you? What say the news on you? What say the news on
stop?
Get
retour sur les ondes de 48FM, on écoute toujours l'erreur est urbaine. J'ai posé avant la pause musicale à notre invité Jean-Marie Halleux une question qui en fait en groupe plusieurs, qui sont les enjeux de la supracommunalité. On fera le mois prochain un focus un peu plus grand sur la question, mais pour autant sur les enjeux d'étalement urbain et de densité urbaine, j'avais envie de poser cette question parce que pour moi, c'est fondamental de réussir à trouver le moyen d'éviter les logiques concurrentielles entre communes, notamment au niveau de la fiscalité, on l'a dit, et d'intégrer dans une même structure politique, administrative, des territoires urbains et leur périphérie, leur périurbanité, pour permettre de penser le territoire à sur l'ensemble des espaces et pas juste sectoriser commune par commune.
Oui, vous avez aussi dans votre question mis en avant les problématiques de réforme de l'État, donc il est clair que la supra-communalité, ça porte sur Liège, mais ça porte par exemple aussi sur une ville comme Bruxelles, où idéalement les choses devraient être gérées à une échelle qui déborde par exemple de la région de Bruxelles-Capitale, qui déborde vers le Brabant flamand, vers le Brabant wallon, etc. Et tout ça a effectivement été prévu dans la réforme de l'État avec l'idée de créer une zone métropolitaine. On voit aussi les enjeux par exemple en termes de RER, etc. Alors pour parler de de Liège. Mais tout à l'heure, on a parlé finalement du modèle un peu d'une nouvelle ville transport en commun, finalement, hein, une ville compacte où on va urbaniser à proximité des lieux bien accessibles autrement que par l'automobile, si possible de manière qualitative, avec un maillage vert, etc. Donc tout ça, c'est le projet de territoire, et il est évident que pour concrétiser ce type de territoire, l'intervention d'une commune n'est évidemment pas suffisante. Et on ne peut pas imaginer, par exemple, un maillon vert qui s'arrête à la limite d'une commune, ou à l'inverse, une ligne de transport en commun qui s'arrête à la limite d'une commune. Donc tout ça, idéalement, doit être pensé, et sur un plan opérationnel aussi, doit être aménagé à un niveau qui dépasse clairement le niveau communal. Alors on peut aussi se poser la question de l'échelle. Bon, les géographes constatent que l'espace est continu. Donc ça a l'air bête, mais ça veut dire qu'il est très difficile de fixer des limites, des frontières. C'est toujours un thème qui conduit à des discussions. Alors idéalement, on devrait s'appuyer sur des délimitations, j'ai envie de dire, scientifiques des bassins de vie. Et là, on voit que les bassins de vie, donc l'espace sur lequel vivent les populations, sont de plus en plus vastes. Par exemple, au niveau de la province de Liège, on voit qu'il devient de plus en plus artificiel de séparer le bassin de vie de Liège, par exemple, et le bassin de vie de Verviers. Les deux sont de plus en plus imbriqués. Donc idéalement, ça devrait vraiment porter sur des espaces très, très vastes. Et puis il y a une autre manière de voir les choses, qui est un aspect plus pragmatique par rapport aux décideurs. Et donc là, quand on regarde ce qui se passe au niveau de Liège, on voit une série d'initiatives avec l'échelle de l'arrondissement. Donc les bourgmestres, par exemple, de l'arrondissement se réunissent régulièrement, travaillent ensemble régulièrement, etc. Donc il est clair que tout ça va dans le bon sens, même si ce n'est pas optimal dans le sens où ça pourrait couvrir un territoire plus vaste, mais il est pour ne parler que du sujet du jour, à savoir lutter contre l'étalement urbain, il est évident que ça ne pourra pas se faire si on travaille uniquement à un échelon communal, et que donc l'échelle de la supracommunalité est tout à fait vitale pour réussir ce pari finalement.
Et alors à ce propos, Urbagora, en collaboration avec l'Université de Liège, organise le 24 et 25 novembre un colloque qui s'appelle La Fabrique des Métropoles, qui justement va tenter de faire le point sur les différents enjeux de la supracommunalité, colloque auquel nous invitons chacun à venir évidemment. Vous trouverez toutes les informations sur le site de l'ULG et ou sur celui d'Urbagora, et également on mettra en lien sur la page Facebook de l'émission sur ce colloque. Colloque que nous allons suivre de très près et qui, à mon avis, servira de base pour la prochaine émission de radio. Merci Jean-Marie Halleux d'être venu.
Merci à vous.
Vu, c'est la question de l'étalement urbain et de la redensification urbaine, c'est un enjeu tout à fait crucial pour nos sociétés et en même temps extrêmement problématique. Kitrine, petit mot de la fin, petite conclusion.
Donc pour essayer de conclure ce sujet fort vaste, donc comme l'a pu le présenter Monsieur Halleux, on peut voir que le phénomène de l'étalement urbain est un phénomène mondial, mais qui en plus spécifique à la Belgique dans son ampleur. C'est une lame de fond qui dure depuis plus d'un siècle maintenant et qui entraîne de plus en plus des enjeux et des problématiques de plus en plus grands, tant sur le plan économique, environnemental que social. Donc on peut remarquer que le discours des politiques va dans le bon sens et tend de plus en plus à réduire l'étalement urbain et à favoriser la redensification urbaine, mais cependant les réalités sont fort différentes, puisque comme M. Halleux a pu l'expliquer, on peut voir que les gens continuent à s'installer de plus en plus loin des villes. Donc finalement, la solution de la redensification urbaine doit également mieux se coordonner avec un développement tant de l'urbanisme que des transports pour pouvoir rendre cette problématique soutenable, et également passer par une bonne prise en compte et spécification des zones dans lesquelles l'action serait possible pour permettre cette redensification du territoire.
Merci Kitri. On clôt le dossier ici, même si évidemment le débat est encore large et on se garde sous le coude la possibilité d'y revenir sur un enjeu plus spécifique à l'occasion.
Avant de finir cette émission, je vous propose une nouvelle rubrique, une rubrique qui donne la parole à des acteurs de la vie en ville, des acteurs de l'urbanité, des gens non spécialistes. C'est vrai que cette émission donne souvent la parole à des géographes, à des spécialistes, à des gens qui ont fait un travail spécifique sur la ville. Et pour autant, je crois que le vivre aujourd'hui en ville, c'est avant tout des chemins individuels, des manières de faire, des manières de vivre différentes. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer cette rubrique plus subjective, quelque chose qui donne à voir peut-être une vision plus intime de la ville, de la manière de le vivre. Et pour le premier test dans cette rubrique, je suis allé voir Emmanuelle Wegria, qui est la fondatrice et la responsable du magasin Wattitude, bien connu des Liégeois en Souvrin-Pont. C'était une interview d'une dizaine de minutes que je vous propose d'écouter où Manu, qui n'est absolument pas spécialiste de la ville d'aucune manière, va juste raconter sa manière à elle de vivre la ville. On écoute.
Je suis une pure citadine. Je ne viens pas de Liège, je viens de Huy, donc quand même une plus petite ville. Mais bon, j'ai débarqué à Liège quand même assez rapidement pendant mes études. Donc effectivement, j'arrivais dans une ville beaucoup plus dynamique, évidemment.
Et pour toi, ouvrir Wattitude, ça n'avait pas de sens de le faire ailleurs qu'en ville, quoi.
Non, pas du tout, oui. Mais ça aurait pu intéresser certainement les personnes de la campagne, mais je pense que Wattitude propose des petits produits qui peuvent à la fois séduire le Liégeois. Enfin, séduire, je dis ça parce que c'est vrai que la plupart des gens qui rentrent dans le magasin viennent avec une certaine envie, notamment faire un cadeau pour quelqu'un, et puis ils repartent avec plein de choses pour eux. Mais ça peut aussi séduire pas mal de touristes, donc ramener un petit souvenir liégeois ou wallon un petit peu différent du tchantché et des choses un peu plus folkloriques qu'on a un peu trop l'habitude de voir. Je veux dire, c'est quand même très chouette si je parle pour moi, c'est ce que je recherche aussi quand je vais visiter des villes à l'étranger. J'ai envie de choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Maintenant, je pense qu'effectivement, quand je vois le type de clientèle que j'attire, je me rends compte que dans la périphérie liégeoise, les gens se déplacent de moins en moins et ils consomment près de chez eux aussi, ce qui est très bien, mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faudra pas aller vers les gens? C'est un peu finalement ce que moi je faisais quand je travaillais pour Arsenic, c'était une compagnie qui jouait sous chapiteau, une compagnie de théâtre itinérant, et donc on allait présenter nos spectacles aux gens finalement. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas un petit peu revoir notre système de consommation? Je pense qu'effectivement c'est important qu'on soit implanté dans la ville, c'est indéniable, et en plus ici rue Souvrin-Pont, pour moi c'est très important d'être dans cette rue en redynamisation et au cœur de Liège. Mais voilà, est-ce qu'à un moment donné je ne vais pas acheter une camionnette et aller faire le tour des bleds?
Chouette alors. Et j'en viens du coup aux questions plus techniques sur la ville peut-être, mais la question que je me pose, c'est toi, t'es implanté en Souvrin-Pont, tu le disais, c'est une zone en dynamisation, t'as été pratiquement une pionnière dans la redynamisation de la rue, je pense que on peut dire ça.
Oui, oui.
Et est-ce que pour toi ça a une importance justement de faire partie de cette redynamisation du centre-ville en général, par la rue Souvrin-Pont en particulier, ou est-ce que c'est juste, ça s'est fait comme ça et tant mieux?
Ça s'est pas fait comme ça. Je pense que déjà mon projet, quand je l'ai débuté en 2012, c'était des ventes éphémères, c'était novembre-décembre 2012, donc j'ai commencé ça dans un entrepôt dans le quartier Saint-Léonard. Donc c'était aussi une activité, j'étais déjà pionnière dans mon activité parce qu'il n'y avait pas encore de magasins comme ça ou de boutiques qui proposaient des produits de créateurs locaux, donc aussi bien dans le design, dans la mode, dans les produits de bouche, etc., donc quelque chose de rassemblé. Et alors pour moi, le fait de m'implanter dans une nouvelle rue, parce que finalement après 2012, quand mes ventes éphémères ont eu lieu, donc ça a fort bien marché, c'est là que je me suis dit bon, ça va, je peux maintenant me lancer. J'ai un peu fait rapidement le tour dans ma tête où je voulais aller m'implanter. Et pour moi, il fallait que ça soit dans une nouvelle rue qui insuffle une nouvelle dynamique, etc. Avec ce projet qui aussi insufflait une nouvelle dynamique. Donc les deux allaient de pair et je pense que c'était important. Aller me mettre dans le carré entre Zara et H&M, ça n'avait aucun sens, quoi. Donc voilà.
Oui, ça dénote d'une certaine vision de ce que devrait être la ville aussi au niveau commercial, au niveau économique.
Mais oui, et effectivement, bah, moi, grâce à mon commerce, je crée de l'emploi, ne fût-ce que par... Bon, maintenant, ça fait 3 ans que je suis là, on est 4 employés, on a 2 magasins, donc voilà, on est 4 à travailler, mais aussi, j'ai 250 à 300, enfin, en 250 et 350 créateurs à qui je permets, voilà, de développer leur activité. Donc, tout ça crée de l'emploi, c'est pas... Donc, je n'ai pas de centrale d'achat, je n'ai pas... Donc, voilà, je fais... vivre en quelque sorte plein de monde, bon, hein. Chacun à son échelle évidemment, hein. Il y en a qui font ça en activité full time, il y en a qui font ça à temps partiel, enfin tout le monde fait ça à son rythme, mais au moins développe son activité. Bonjour.
Merci. Voilà, s'il te plaît.
Je t'apporte des sous dans
toi. C'est pour la maison.
Bon Dieu.
Pour le retard.
Bah enfin, merci dit tante.
Et du coup, au-delà de l'attitude, toi, en tant qu'architecte de formation, mais en tant que citoyenne, en tant que bourgeoise, comment tu définirais aujourd'hui une identité urbaine? Ça veut dire quoi vivre en ville aujourd'hui pour toi? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus?
Bah, c'est s'approprier l'espace. C'est une question difficile. Hein.
Oui.
Moi, je vis en ville, enfin, je n'ai pas peur de la ville déjà, donc côtoyer des gens très différents, enfin, avoir une population multiculturelle, bah, croiser forcément des drogués, des prostituées dans la rue, etc. Pour moi, ça fait partie de mon quartier, ça fait partie de l'histoire du quartier. C'est effectivement dommage que les drogués ne soient pas un peu plus pris en charge que ça. Ils tournent... bon voilà, la plaque tournante est quand même la place Saint-Lambert, malheureusement c'est à 2 pas voilà, de nos commerces. Bon, c'est jamais très agréable pour ceux qui sont un petit peu plus qui viennent un peu plus loin ou qui ont peur de ça, mais voilà, pour moi ça fait partie de la ville, c'est du vivre ensemble, quoi, hein, voilà. Je n'ai jamais eu de problème quoi que ce soit avec personne, même voilà, mes magasins touchant du bois, j'ai jamais eu de problème, quoi. Et puis, pour moi, une ville, bah, ça doit être effectivement, au niveau commercial, bah, ça doit être une belle harmonie, c'est-à-dire de petits commerces, de gens qui, comme je te disais tout à l'heure, développent leur activité. Bon, bah, les grandes chaînes, bah, y en aura toujours, mais bon, c'est bien aussi de ne pas faire un ghetto de grandes chaînes, ou alors... les mettre, dans des zones, dans des centres commerciaux, comme ça fait plaisir à ceux qui ne veulent pas rentrer en ville. Mais voilà, parce que les petits commerces, c'est une autre... j'ai l'impression que c'est une autre manière de fonctionner, quoi. On est plus aussi dans... comme je vois que, par exemple, comme vit Maastricht, on a plus envie d'aller peut-être se balader... de lâcher sa voiture à un moment donné, de prendre son vélo ou prendre ses jambes et aller se balader, aller faire ses courses. Donc voilà, pour moi, c'est ça que j'aurais envie. Mais
et toi, tu habites en ville aussi, tu travailles en ville, tu as ta voilà. boutique, mais tu fais le choix aussi de rester en ville pour des raisons pratiques peut-être, mais j'imagine par choix aussi, parce que rien ne t'interdirait d'aller te mettre à la cambrousse.
Voilà, moi si je vais me mettre à la campagne, c'est pour aller, enfin, ça veut dire que je déplace aussi mon activité à la campagne, parce que c'est vrai que je trouve parfois un peu idiot d'aller se mettre à la campagne et puis de devoir commencer à faire des kilomètres en bagnole. Pour aller conduire ses mômes à l'école en ville. Maintenant, si tu as ton activité à la campagne et que tu as une école à la campagne, ben voilà, tu rassembles tout et puis alors tu vas en ville quand ça te chante, etc. C'est le choix de chacun. Mais voilà, c'est vrai que moi je suis citadine et je le resterai. Si j'ai envie d'aller à la campagne, je m'achèterai un jour, si je gagne l'auto, une maison. Bonjour. Une maison pour le week-end.
Mais du coup, tu dis t'es citadine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'aimes vivre dans justement la multiculturalité, le...
Oui, je suis citadine, mais en même temps, j'ai choisi de vivre dans le quartier Saint-Léonard. Donc toujours un quartier très multiculturel où il fait aussi bon de vivre ensemble, et en même temps c'est pas l'hyper centre-ville, donc j'ai un jardin vu sur les coteaux, enfin voilà, je respire, je n'ai pas du bruit, enfin le bruit incessant de la ville. Mais par contre voilà, venir travailler en ville, pour moi c'est important, j'aime cette dynamique, j'aime je ne ferais pas ce métier si je n'aimais pas les gens, par exemple. Hein. Je suis tout le temps derrière mon comptoir à tout le temps parler toute la journée. Je rentre, je suis crevée parce que je n'ai fait que parler. Mais en même temps, voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est le contact avec les gens. Je crois que me retrouver à la campagne toute la journée à parler aux oiseaux, je ne suis pas sûre. c'est autre chose et je crois que j'apprécierais ça le week-end, mais la semaine j'ai besoin de voir les gens et d'être dans cette dynamique quoi.
L'émission touche à sa fin. Avant de vous quitter, je vous propose un dernier morceau de musique, Caliche de Chico Buarque et Milton Nascimento.
Afasta de mim esse cálice,
Pai. Afasta de mim esse cálice,
Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai.
Afasta de mim esse cálice, Pai.
Afasta de mim esse cálice, Pai.
Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.
Pai,
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue.
Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil,
Pai,
abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade?
mesmo calado, peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno,
cálice.
Nem seja a vida um fato consumado.
Cálice.
Quero inventar o meu próprio pecado.
Cálice.
Quero morrer do meu próprio veneno.
Cálice.
Quero perder de vez tua cabeça.
Cálice.
Minha cabeça, perder teu juízo.
Cálice.
Quero cheirar fumaça de óleo diesel.
Cálice.
Me embriagar até que alguém me esqueça.
Cálice.
Et voilà, notre émission touche véritablement à sa fin maintenant. Je vous remercie de nous avoir été fidèles. Je vous souhaite à tous un très bon appétit et un bon week-end. Pour notre part, on se retrouve le 9 décembre pour la prochaine émission de L'Erreur est urbaine. D'ici là, portez-vous bien. Une très bonne journée à tous. Au revoir.